le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, vous écoutez France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pendant cette demi-heure à venir pour le service protestant. La Fondation La Cause a 100 ans cette année. Et le service protestant se devait donc de célébrer cet anniversaire. Nous le ferons avec le pasteur Mathieu Arnera, directeur de la communication de la Fondation La Cause, avec qui nous allons essayer tout d'abord de mieux connaître cette fondation et son action, puis ensuite, en l'écoutant, nous partager autour d'un texte de l'Évangile. Bonjour pasteur Arnera.
Bonjour.
Pourrait-on dire, un peu comme une forme de slogan, que la Fondation La Cause, c'est 100 ans d'accompagnement?
Oui, la cause est née dans une période de grande disette spirituelle, causée entre autres par les quatre longues années de la Première Guerre mondiale, qui a été particulièrement meurtrière. Et donc, la cause voulait apporter la vie et voulait conduire des orientations spirituelles. Et donc, du coup, elle s'est tout de suite lancée dans une production très riche de périodiques sur les sujets où il lui semblait essentiel de développer une pensée théologique. Pensée soutenue par une foi vivante. Alors je cite pêle-mêle l'enseignement, les aspirations à l'action de la jeunesse, l'évangélisation, l'action sociale, l'accompagnement des agents de service public par exemple, la musique, qu'elle soit liturgique ou non, l'utilisation de l'image dans la communication, etc.
Enfin, c'est très divers.
Très. Et dès ses débuts, le fonctionnement de la cause s'est manifesté de la façon suivante. On identifie un besoin, soit par observation, soit par réponse à une demande, et on cherche à mettre en place une réponse la plus adaptée possible en fonction des moyens qu'on se donne. Et aujourd'hui, l'action continue à travers quatre départements, l'enfance, les solos et les duos, le handicap visuel et toujours les éditions.
Et alors, vos moyens d'action, quels sont-ils plus précisément ?
Alors, nous cherchons à travailler en artisan, dans le bon sens du terme, dans tous les départements d'action, c'est-à-dire que, d'une part, nous avons développé un savoir-faire particulier, et d'autre part, nous attachons une très grande importance à la relation directe avec les bénéficiaires de nos actions. On essaye de ne pas travailler d'institution à institution, même si bien sûr les structures légales sont nécessaires, mais plutôt de personne à personne, d'accord, en confiance, en vérité. C'est ce qui nous permet, je pense en particulier à la vingtaine d'orphelinats que la Fondation La Cause accompagne, c'est ce qui nous permet d'agir selon les besoins évalués localement, et non pas d'appliquer mécaniquement une recette qui aurait marché dans un autre cadre. Mmh. Et cette volonté de travailler en artisan implique aussi pour nous la volonté de poser une éthique sûre et une éthique partagée avec nos partenaires. Cette éthique commune de travail nous permet de travailler en confiance avec les directeurs des orphelinats.
Alors 100 ans, c'est quelque chose. La célébration, c'est aussi un élément important de la vie. Mais en même temps, on a envie, je pense, de se projeter, de ne pas être uniquement le nez dans le rétroviseur. Comment envisagez-vous, allons-y, osons, les 100 années à venir?
Il faut évoluer sans cesse, évidemment. Que ce soit pour les orphelinats que je viens d'évoquer ou pour la bibliothèque sonore et braille, pour prendre un autre exemple, nous cherchons à maintenir notre offre de service toujours à niveau. Mmh. Donc étant donné que nous visons le long terme, ça implique plusieurs choses, tout en tenant compte évidemment de nos capacités propres. D'abord, il faut évaluer les nouveautés technologiques ou les nouveautés des situations pour se projeter dans l'avenir et anticiper le plus possible. Est-ce que, par exemple, pour ce qui concerne la technologie, est-ce que ce sera durable? La bibliothèque sonore, au fil du temps, elle est passée d'abord sur bande, puis sur cassette audio, puis sur CD, maintenant sur CD Daisy. Et le chantier des prochaines années, c'est évidemment, chantier déjà bien entamé, la mise en ligne de toute cette bibliothèque.
Oui, tout ça évolue constamment.
Et donc, de la même manière, il a fallu nous adapter aux besoins exprimés par les bénéficiaires du travail du département solo duo, mettre en place une offre déclinée pour les solos qui accueillent avec la même bienveillance les solos qui veulent vivre sereinement leur situation de solo et puis ceux qui souhaitent continuer dans la recherche d'un conjoint. Autre adaptation que nous avons vécue, c'est celle de passer d'un travail protestant au sens strict, dans les premières années de la cause, à une collaboration œcuménique avec l'organisme catholique Fondatio pour tout ce qui concerne les sessions proposées aux couples. Nous avons gardé nos spécificités propres, mais nous mettons en commun nos savoir-faire et nos expériences dans l'accompagnement des couples. Et nous leur montrons, dans les faits, la possibilité de travailler ensemble malgré nos différences théologiques, ce qui est une illustration concrète de la situation de nombreux couples aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs. Ces couples mixtes, c'est une réalité qu'on retrouve de plus en plus dans les foyers chrétiens, catholiques, protestants.
Voilà, entre autres.
Et vous le vivez, vous aussi.
Oui, oui, c'est effectivement mon cas.
Alors, permettez-moi de jouer avec les mots. Quelle est la cause qui vous anime en 2020?
Alors, ce nom de la cause, il vient des réformateurs. Par exemple, Mélenchon disait « la cause qui nous anime, c'est celle de Jésus-Christ ». Et c'est un mot qui servait à désigner les idées de la réforme. C'est le choix de ce nom pour notre fondation qui a été reconnue d'utilité publique en 2008, et elle a toujours affirmé sa volonté de fonctionner grâce aux dons uniquement, sans recevoir de subventions de l'État. Les deux mots d'ordre qui ont été lancés le jour de la création de la cause, c'était « enthousiasme » et « méthode ». Et ces deux mots d'ordre qui peuvent toujours caractériser les actions de la cause. Au quotidien, il y a un travail minutieux pour accomplir avec soin la mise en œuvre des grands projets qui sont toujours portés par une réelle conviction et une foi solide.
Le service protestant sur France Culture avec le pasteur Mathieu Arnera, directeur de la communication de la Fondation La Cause, qui célèbre donc cette année ses 100 ans et qui maintenant va nous partager une réflexion autour d'un texte de l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 14 à 23.
Jésus était en train de chasser un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon sortit, le muet se mit à parler et la foule fut stupéfaite. Cependant, quelques-uns dirent « C'est Belzébul, le chef des démons, qui lui donne le pouvoir de chasser ses démons. » D'autres voulaient lui tendre un piège. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors « Si un royaume est divisé et que ses habitants luttent les uns contre les autres, il finit par être détruit. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. » Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Vous dites en effet que je chasse les démons parce que Belzébul m'en donne l'autorité. Si je les chasse de cette façon, qui donne à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui arrive et s'en rend vainqueur, il lui enlève les armes dans lesquelles il mettait sa confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.
Un texte qui peut paraître un peu compliqué, en tout cas tendu dans ce qui s'y passe. Alors nous sommes à votre écoute, Mathieu Arnera, pour aller un petit peu plus loin.
Je trouve qu'avec ce texte, la situation pourrait paraître presque drôle. Jésus vient de faire un miracle, de rendre la liberté à un homme enchaîné par l'aphasie, le mutisme involontaire. Et cet homme est de nouveau libre de parler, de dire, de se dire. Et la situation est enthousiasmante. Et devant cette situation si merveilleuse, si joyeuse, il se trouve encore des gens pour critiquer, pour dire que ce qui vient de se passer est mauvais et vient de Satan. Mais quoi ? Dirait mon fils. Hein, encore, je traduis, il le dirait avec d'autres mots. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence, l'action la meilleure, faite avec la meilleure intention du monde, peut engendrer aussi des réactions hostiles.
On peut voir cela se produire d'ailleurs assez souvent autour de nous, il me semble. Mais il y a ici, semble-t-il, des choses qui se trament par derrière.
Oui, bien sûr, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une grande foule est témoin de ce que Jésus vient de faire. Les gens s'étonnent, ils se questionnent, en même temps qu'ils s'émerveillent. Comment cela est-il possible? Mais il y a, dans cette foule, des personnes que le ministère de Jésus inquiète, désarçonne, dérange. Et ces personnes ne peuvent pas laisser passer un tel étonnement dans la foule, parce que à long terme, les gens risqueraient de se poser encore plus de questions, de chercher à mieux savoir qui est ce Jésus, et à finir par l'écouter, voire par mettre en pratique son enseignement. Et ça, ça ne fait pas leurs affaires. Alors ils allument un contre-feu, si je puis dire, avec une tactique bien classique, bien éprouvée, la calomnie. C'est-à-dire l'accusation dont on sait qu'elle est fausse, mais on sait aussi qu'il en restera toujours quelque chose. En quelque sorte, les détracteurs de Jésus le traitent de pompier pyromane. Oui, il fait des choses extraordinaires, mais c'est pour vous épater et pour mieux vous asservir par la suite. Et Jésus répond par plusieurs arguments dans ce texte. Je m'arrêterai simplement au premier. Si un royaume est divisé et que ses habitants luttent les uns contre les autres, il finit par être détruit. Or, le royaume de Satan n'échappe pas à la règle. Satan, en hébreu, c'est l'adversaire, celui qui est contre. Et le mot signifie aussi l'accusateur. Et l'autre appellation de Satan dans la Bible, c'est le diable, c'est cette fois un mot grec, qui signifie le diviseur, le calomniateur. Et les adversaires de Jésus accusent et calomnient, ils veulent diviser la foule à son sujet. Et Jésus conclut, « Celui qui n'est pas pour moi, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. »
Que sous-entendez-vous à partir de cette parole de Jésus?
Ce que souligne Jésus, c'est que même ceux dont le fonds de commerce est de diviser savent qu'il ne faut pas le faire entre eux. Mais pour aller au-delà de cette situation dans laquelle se trouve Jésus, je dirais qu'il se trouve des situations où nous-mêmes, nous oublions cet enseignement et où nous nous laissons entraîner du côté de la division, du côté de ceux qui divisent. La tentation existe toujours pour tout le monde, même lorsqu'on cherche à faire le bien. Tentation, par exemple, de juger les actions d'autres personnes comme inutiles, parce qu'ils font parfois autrement, ou bien alors, si ils font des choses semblables à ce que nous faisons nous-mêmes, de critiquer leur méthode, de dire que seule notre manière de faire est la bonne. Or, il me semble que la situation de pandémie que nous traversons nous entraîne peut-être encore plus que d'habitude vers le risque du repli sur soi et de l'exclusion de l'autre.
Oui, c'est ce qu'on voit un petit peu aussi dans les relations globalement, sur les réseaux sociaux, ce sont des choses qui ressortent assez bien.
Oui, oui, tout à fait, parce que d'une part, nous sommes restés un long moment loin les uns des autres pendant la période du confinement, et puis même si nous avons repris, de nombreuses contraintes font que aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas utiliser toujours les gestes tactiles qui, jusqu'à cette épidémie, nous permettaient de manifester notre affection, notre souci les uns des autres. Et c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Mine de rien, j'ai l'impression, j'ai même la conviction que ça peut jouer sur notre morale, sur nos habitudes, sur notre approche des autres. Au début, ça nous manque de ne pas pouvoir toucher les autres, et puis on s'habitue. Et puis même, parfois, on en vient avec la peur à préférer ne pas les toucher. Lorsque la possibilité nous sera donnée à nouveau, peut-être qu'il y aura un effort à faire pour reprendre nos contacts. Parce que quand on prend l'habitude d'être seul, on prend l'habitude de penser seul, de ne pas inclure l'autre, de ne pas inclure les autres dans notre circuit de pensée. Et du coup, lorsqu'ils réapparaissent au détour d'une rencontre, plus ou moins contrainte, eh bien le risque grandit de les voir comme des dangers, comme des ennemis plus que comme des amis et des chances de rencontre. Et c'est précisément à ce moment-là que Jésus vient nous rappeler « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». Thank you.
Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Une phrase de Jésus qui interpelle et qui correspond à l'appel même de votre fondation, Mathieu Arnérin.
Oui, rassembler, c'est une des vocations de la cause lorsqu'elle fut créée. Rassembler d'abord sous la bannière de la foi protestante, la foi évangélique, disait-on alors, tant l'antagonisme avec les autres confessions était fort, et tant la conviction était forte que l'évangile n'était à cette époque porté que par les voies protestantes. Notre contexte a changé, et l'évangile de Jésus-Christ se fait entendre ailleurs que dans les seules églises protestantes, grâce à Dieu. Mais dans le contexte du début du XXe siècle, les fondateurs de la cause se sont donnés pour mission de rassembler un petit peuple dispersé dans un pays éprouvé par 4 ans de guerre meurtrière, avec, je dirais, une logique toute simple. Nous sommes tellement peu nombreux qu'il faut que tout le monde se mette au travail pour annoncer l'évangile de toutes les manières possibles.
Comment ça se traduit aujourd'hui ?
Ben alors, comme je le disais, les choses ont changé. Et les clivages entre ceux qui relèvent de l'évangile de Jésus-Christ et ceux qui n'en relèvent pas, ça traverse toutes les églises, peut-être de manière tout aussi forte encore qu'il y a un siècle. C'est pourquoi, y compris à l'intérieur de nos communautés, il me semble que nous sommes toujours au bénéfice de cet appel. Jésus nous demande de rassembler avec lui. Les tentations sont grandes de souligner les différences, les approches théologiques si nombreuses, voire antagonistes. Et puis, tout occupé à notre pureté théologique, nous en oublions que le Maître nous a appelés à rassembler.
Alors c'est intéressant parce que nous en parlions récemment ici dans le service protestant, alors que j'accueillais Thierry André qui est chargé du lien fédératif au sein de la Fédération protestante de France. C'est un vrai défi que celui de vouloir rassembler, c'est en tout cas ce qui ressort à la fois de mon entretien avec Thierry André qu'avec celui avec vous ce matin.
Oui, je voudrais partager quelque chose d'un peu personnel. Je viens d'une famille membre de l'Église réformée, mais de tendance évangélique. Et un jour que je discutais avec mon père, qui était pasteur aussi, des différences entre libéraux et évangéliques, il m'a raconté l'anecdote suivante. Dans les débuts de son mariage, ma mère et lui sont allés au culte avec ses beaux-parents. Et ils sont allés écouter un pasteur reconnu pour son libéralisme, je dirais, avancé. Et alors, en sortant du culte, mon père discutait de la prédication en disant que c'était un beau discours, mais qu'il connaissait le fond et qu'il ne se laisserait pas piéger par ce discours. Et sa belle-mère l'a repris en lui disant « Tu t'es laissé piéger par tes a priori. Moi, j'ai entendu parler de Jésus dans cette prédication et j'ai appris quelque chose qui me servira dans ma relation avec lui. » Et mon père a conclu cette histoire en me disant « Depuis ce jour, je me suis toujours fait un devoir d'écouter ce que Dieu avait à me dire, quel que soit l'orateur. » Alors je veux être bien clair, j'ai la conviction que notre approche théologique, notre référentiel théologique est important, parce que ça nous donne une colonne vertébrale, ça nous permet de rester cohérent, ça nous empêche de partir dans toutes les directions et de prendre des décisions et des approches théologiques au gré du vent et de la mode. Mais pour autant, je crois fermement que le Seigneur utilise nos actions d'une manière que nous ne comprenons pas toujours, que nous n'anticipons pas toujours, et c'est pourquoi il faut rester humble quant à notre manière d'annoncer l'évangile et de témoigner de notre foi.
En fait, c'est peut-être là le secret, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, cette importance de l'humilité, cette nécessité de l'humilité.
Oui, pour illustrer l'humilité, j'aime beaucoup cette histoire d'un pasteur qui, à la sortie d'un culte, salue les paroissiens un à un. Et puis, il y en a un d'eux qui vient lui dire « Ah, vraiment, merci, monsieur le pasteur, pour votre prédication aujourd'hui. J'ai vraiment compris d'un seul coup la grâce de Dieu, le changement qu'il veut pour moi. Dès aujourd'hui, je vais le suivre de tout mon cœur. » Alors, évidemment, le pasteur...
Le pasteur est heureux.
Oui, très heureux de ce récit de conversion, finalement. Et alors, il cherche et il se dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose que je pourrais réutiliser. » Alors, il demande à cette personne, bon, c'est formidable, merci Seigneur, et est-ce que vous vous souvenez s'il y a une parole particulière qui vous a amené à cette compréhension soudaine de la grâce de Dieu ? Et le paroissien répond, oh ben oui, c'est quand vous avez dit, j'ai fini ma première partie, je commence la deuxième partie de la prédication. Et à cet instant précis, j'ai compris que j'avais fini la première partie de ma vie, où c'était moi qui décidais, et que j'allais commencer la deuxième partie de ma vie avec Dieu aux commandes.
Oui, comme quoi le genre d'histoire qui nous fait relativiser et qui nous pousse à encore plus d'humilité.
Oui, tout à fait. Je crois vraiment que le Seigneur utilise nos actions d'une manière qui nous échappe. Et que notre rôle est de faire notre travail du mieux que nous pouvons, du mieux que nous savons, mais pas de le comparer aux autres. Le Seigneur nous appelle à dire, là où je suis, le Seigneur m'a appelé à accomplir telle tâche et je le fais du mieux qu'il m'est donné de faire. Pour revenir à la Fondation La Cause, depuis 100 ans, elle a choisi de travailler à côté des églises, là où les communautés locales ne peuvent pas aller, faire le travail qu'elles ne peuvent pas faire. Ça a toujours été dans l'ADN de La Cause de veiller à ne pas faire doublon avec le travail des églises, mais de le compléter. Pour reprendre nos départements d'action, conduire des adoptions, organiser, suivre le terrain des parrainages d'enfants, accompagner les couples et les solos, offrir aux aveugles un accès à la littérature, développer une proposition d'édition ciblée, tout ça fait partie intégrante d'un travail d'annonce de l'Évangile auprès des plus fragiles, des plus démunis, de celles et ceux qui traversent momentanément ou plus longuement une difficulté supplémentaire dans une vie déjà exigeante. Et voilà, c'est parfois un travail tellement spécialisé que c'est important d'avoir une éthique, une expérience, un professionnalisme assuré. C'est pour cela que dans chacun des domaines d'action de La Cause, à la suite de ce que dit Jésus à ses disciples, nous souhaitons rassembler avec le Christ. Et pour cela, on travaille avec différents organismes, des chrétiens membres de toutes les églises, en appréciant particulièrement d'œuvrer les uns et les autres dans un état d'esprit d'ouverture et de bienveillance. Nous pensons vraiment que Jésus nous unit avec lui pour nos frères et nos sœurs en humanité. Il nous unit pour, non pas contre, mais pour. Il nous unit pour soulager les souffrances, pour libérer les enchaînés, pour aimer et pour être aimé. Je dirais, engageons-nous à sa suite pour rassembler, pour veiller à ne pas disperser.
C'est aussi donc ce à quoi vous nous encouragez dans cette dynamique de ce que vous vivez, vous personnellement, avec la Fondation La Cause, mais dans le quotidien de nos histoires personnelles, de nos rencontres, croyants ou non par ailleurs, mais en entendant ce matin que le Christ peut nous y aider. Alors merci Mathieu Arnera pour cet échange et cette réflexion autour de ce texte biblique. J'ai entendu dire qu'un livre va sortir, un livre qui va raconter l'histoire de la Fondation La Cause, il me semble.
Oui, il est en préparation, un livre qui va brosser les 100 ans, plus les premières années, mais les 100 ans d'histoire de la Fondation La Cause.
Et alors, il sera disponible très prochainement ?
On espère qu'il sera disponible à la fin du mois de novembre.
D'accord. Il est écrit par qui ?
Par Patrick Cabanel.
Alors, on surveille, et puis on aura sans doute l'occasion d'en reparler encore dans le service protestant.
Oui, certainement.
J'aurais encore une petite question. Mathieu Arnera, les 100 ans, j'imagine que vous aviez prévu de les fêter autrement que... Comment ça se passe de votre côté ? Est-ce que vous avez prévu autre chose ?
Oui, alors évidemment, il y avait deux grands événements prévus, un au mois de mars, un au mois d'octobre, qui ont dû être reportés, et donc ils auront lieu au mois de juin 2021, 26 juin, et toutes les informations seront données sur notre site www.lacause.org.
Et la fête ressemblera à quoi alors ? Vous avez déjà des idées ?
Oui, bien sûr. Alors il y aura beaucoup d'intervenants, de bénéficiaires des actions de la Fondation. Oui. Toute une réflexion sur l'action sociale avec une table ronde avec de nombreux intervenants. Comme les choses ont changé, je ne vais pas annoncer maintenant des intervenants, mais ils seront indiqués sur le site. En temps utile.
Et donc ça se passera à Paris ?
Ça se passera à Paris, au Palais de la Femme.
Donc voilà, on surveille là encore, grâce au site de La Cause. Merci beaucoup, Mathieu Arnera.
Merci à vous. Thank you.
Ce service protestant est maintenant terminé. Il vous est proposé chaque dimanche sur France Culture de 8h30 à 9h par la Fédération protestante de France et présenté par Jean-Luc Gadreau et réalisé par Anne-Laure Chanel avec ce matin la prise de son Bernard Laniel. Notre invité ce matin était le pasteur Mathieu Arnera, directeur de la communication de la Fondation La Cause à l'occasion des 100 ans de la Fondation. Pour réécouter cette émission mais aussi retrouver le texte du jour, rendez-vous sur le site franceculture.fr ou celui de protestants au pluriel.org. Notre adresse postale pour toute réaction ou question, service protestant, 47 rue de Clichy, 75009, Paris, ou l'adresse mail communication@fédérationprotestante.org. Sur France Culture, vous retrouvez maintenant les informations suivies de l'émission talmudique présentée par Marc-Alain Wachnin. Et pour ma part, je vous souhaite un excellent dimanche et une belle semaine.